Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous réunit ce soir et qui nous donne la possibilité de reprendre le programme de tafsir. Et pour rappel, nous sommes en train d'étudier la sourate Ad-Dahr. Hal ata ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Où est-ce qu'on était arrivé dans le tafsir de la sourate? On est arrivé au verset où Allah Rabbul Izza décrit les boissons des gens du paradis. Et notre Seigneur Rabbul Izza nous révèle, j'ai pas lu le verset encore, A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Alors on est à une thématique de la sourate Al-Insan. J'ai dit la sourate Ad-Dahr tout à l'heure, sourate Al-Insan. On est à une thématique de la sourate Al-Insan où Allah Rabbul Izza décrit les qualités des croyants qui ont eu accès au paradis. Et ça, mes chers frères, il faut faire tarkiz, c'est-à-dire il faut donner beaucoup d'importance au développement des versets qui décrivent les qualités des pieux. Là, nous avons un exemple qui est magnifique, qui est détaillé avec, subhanallah, des qualités qui sont propres à la foi en l'invisible, les qualités intérieures, mais également des actions extérieures. Donc, peut-être pour bien situer qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer, il faut revenir à un verset juste avant. Inna al-abrara. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. On peut essayer de se rapprocher. On laisse des boulevards à droite et à gauche. La baraka, c'est quand on est proche dans un majlis, il y a beaucoup de rahma qui descendent, même du côté gauche. Allah ya Ali, ta'al. Tu es jeune. Hein, t'es pas jeune? Si, le cœur est encore jeune. Inch'Allah. Al-Abrar, les pieux. Allah Rabbul Izzah décrit les pieux. Et nous avons l'équivalent de ce genre de verset. Allahu Akbar, dans quantité de passages du Coran, Qad aflah al-mu'minun, par exemple, on a une page avec des descriptions des croyants. Des croyants pieux et sincères. On a Hudalil Muttaqin, Al-Ladina Yu'minuna Bil-Ghaib, on l'avait cité avant les vacances. Pas mal de passages du Coran où Allah Rabbul Izzah donne, où Allah Rabbul Izzah nous informe que voilà les pieux, voilà les croyants sincères, voilà les wa'ibadur rahman, les serviteurs du clément. Et ensuite, il y a 5 ou 6 qualités, 7 ou une dizaine en fonction des passages, qui décrivent qu'est-ce que ces gens avaient fait de ce dunya pour obtenir cette qualité et d'être accepté par Allah pour être maintenant de le Jannah. Et donc les mufassirin disent, quand nous avons ce genre de développement, il faut prendre son temps. Et nous, on a l'habitude de prendre notre temps et on le continuera à le faire, Inch'Allah, quand on a un tawfiq de le faire. Il faut prendre son temps et avec une loupe, moi j'allais même dire avec un microscope, analyser les qualités de ses croyants. Dans quel but? Pas pour raconter des histoires ou pour dire, ah ouais, c'est bien, Mashallah, c'est des gens qui sont plus. Non. Contempler, admirer et mettre en application de notre vie. Je veux être innal abrara. Je veux être ibadullah. Aynan yashrabu biha ibadullah. Je veux être ces personnes-là qui de le Jannah vont boire de cette boisson du paradis. Et la première qualité, les deux premières qualités qui sont associées de le même verset, j'ai lu le verset, j'ai pas traduit, ou j'ai traduit, je sais pas. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Ils accomplissent leur vœu. Ibn Kathir rahimahullah explique que ce sont des personnes qui ont fait un vœu avec Allah. Par exemple, « Oh Allah, accorde-moi telle chose, permets-moi de réussir à telle chose, et je veux faire telle bonne action. » Et donc ce croyant, quand il s'engage avec Allah, il respecte son engagement. Je vous expliquais ce qu'Ibn Kathir Sa'adi dit concernant cet exemple qui a été cité. C'est très fin, c'est très technique. Si on lit la traduction, on passe à travers complètement. Mais je donne un exemple d'abord d'un vœu. pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et là, j'écarte direct les trucs qu'on lit dans les contes de fées quand il y a une étoile filante et il fait un vœu. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. D'accord? Faire un vœu, c'est par exemple, on prendrait l'exemple de jeunes, mais il y a plus trop de jeunes, hein, même de Rahman, deux enfants, tout ça. Un jeune qui passe le bac ou qui va passer son PMI. D'accord? C'est important. Donc il dit, Ya Allah, accorde-moi la réussite. Et si je réussis, là, des jeunes, là, mashallah. Mohamed Ulwa, c'est bien ton nom? Ou Uqba, qui va passer son bac, on va dire. Passe son bac, il dit, Ya Allah, si tu me donnes la réussite, je vais jeûner 3 jours pour te remercier. On a le droit à ça? Bien sûr. D'accord? Tant que c'est en rapport avec une bonne action, et en contrepartie, on fait une bonne action qui existe dans la charia. Et donc, Mohamed Uqba, il a son bac et il respecte son engagement. Il fait ses 3 jours de jeûne. C'est très bien. Ça, c'est un exemple pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on dit le vœu. Maintenant, Ibn Kathir al-Sa'di, certainement les autres fascinent, j'ai pas lu les autres ouvrages, mais c'est à peu près le même avis. Ils disent, pourquoi est-ce que notre Seigneur Abul Izzah nous donne cet exemple en premier? Parce que le vœu, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est quelque chose que tu t'es imposé à toi-même. Suivez, hein? Et si ce croyant respecte ce qu'il sait, les actions pour lesquelles il s'est engagé, il s'est lui-même imposé cette bonne action, il est tout à fait normal que pour les actions originales, les actions qu'Allah a légiférées, il va respecter son engagement envers Allah. C'est un petit peu, je sais pas si j'ai bien expliqué. Est-ce que c'est clair? Salim Ahmed, c'est clair? Rachid, c'est clair? Très bien. Hala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Et donc, ce fameux jour où, je relis la traduction, dont le mal s'étendra partout, on parle du jour du Qiyam. Ibn Kathir rahimahullah nous dit que dans ce verset, il est mentionné comme deuxième qualité de ces al-abrar, ce sont des personnes, accrochez-vous, attache ceinture mamay, ce sont des personnes qui pensaient tout le temps au Qiyam. Ce sont des personnes qui en permanence avaient dans leur cœur, dans leur corps, dans leur pensée, dans leur décision, la priorité, c'est le jour de Qiyam. Comment je vais me présenter auprès du tribunal d'Allah le jour de Qiyam? Quand ils accomplissent une bonne action, comment faire en sorte pour qu'Allah accepte, valide et soit satisfait de moi le jour de Qiyam par rapport à cette bonne action? Quand je suis face à un péché, face à une tentation, et que je résiste à la tentation, je me dis que je ne veux surtout pas accomplir un péché pour lequel Allah me fera des reproches ou sera mécontent de moi le jour du Qiyam. Mes chers frères et sœurs, si on a compris ça, si on arrive, qu'Allah nous l'accorde, parce que ça c'est quelque chose qui est très compliqué ça. Ça, les savants disent, ça c'est haqiqatul iman, ça c'est la réalité de la foi. Quand tu arrives à faire le lien entre chaque seconde de ta vie de ce dunya et ce que ça aura comme récompense ou conséquence au jour de Qiyama, tu arrives immédiatement à faire le lien entre les dimensions, on va dire, tu es quelqu'un d'intelligent. Ce sont eux, ulul albab, qawmun ya'qilun, des gens qui sont intelligents. Chers frères, l'intelligence, c'est pas l'intelligence de ce dunya. C'est pas uniquement ça, je veux dire, si, c'est important. Vaut mieux être chirurgien que chômeur. Je suis d'accord. C'est mieux que tu aies un bac plus, mashallah, tu as 2 doctorats et que tu ne fasses rien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Allahu Akbar. Beaucoup de respect pour les personnes qui, alhamdoulilah, ont fait des efforts. Mais l'intelligence, ce n'est pas uniquement ça. L'intelligence, c'est également la clairvoyance. Parce qu'une personne peut être immensément riche, avoir une intelligence, mashallah, et ainsi de suite. Bref, avoir réussi. Mais la personne n'a pas iman dans l'au-delà. Donc, le seul but de sa vie, ce sera de profiter des plaisirs de ce monde, c'est de boire, c'est d'aller à Ibiza, c'est d'aller à... Où est-ce qu'on va encore acheter pour faire la fête? Acheter trop loin. Ah, je ne suis pas quelqu'un... Bref, est-ce que ça c'est quelqu'un d'intelligent? Non. Allah lui a accordé l'intelligence, mais il utilise son intelligence, les bienfaits qu'Allah lui a accordés, dans le batil. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est considéré comme « qawmu ya'qiloun ». L'homme intelligent, on revient vers un hadith de base, que tout croyant doit connaître par cœur. Je pense qu'il y a une génération qui a eu l'occasion d'apprendre les hadiths, les moutounes par cœur à la madrasa. C'était ma génération, alhamdulillah. Il y a eu des profs, des jeunes profs qui ont commencé à mettre en place les ouvrages de hadith, et on a eu l'honneur d'apprendre des hadiths avec nos professeurs qui sont aujourd'hui des collègues. Allah Akbar, la reconnaissance pour ces savants, alhamdulillah. Bref, je ferme cette énième parenthèse. Al-Kayyisu, hein, qui complète Al-Kayyisu, c'est pas un mot allemand, hein. Si vous connaissez le Kaiser, non, il est décédé, non, hein, Beckenbauer est décédé, non, oui. Al-Kaiser et Al-Kayyisu, ça, oui, ça se ressemble, mais aucun rapport. Al-Kayyisu, et c'est un terme très éloquent, très rare, qu'on ne rencontre jamais, c'est vraiment spécifique au hadith. Al-Kayyis, le prophète dit que l'homme intelligent, c'est là qu'on voit la définition de l'intelligent dans l'islam. Man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. C'est cette personne qui en permanence va se contrôler et va œuvrer pour la vie après la mort. Ça, le prophète l'a qualifié comme quelqu'un d'intelligent. Même s'il n'a pas un pouvoir d'achat exceptionnel, même si il ne brille pas ni ne rayonne pas aux yeux des gens, mais du moment qu'il est aligné avec ses croyances et ses actions et qu'il arrive à faire le lien tout le temps entre ce qu'il fait et ce qu'il retrouvera dans son mizan et hasanat, dans sa balance et dans son livret de compte au jour de Qiyama, ça c'est un homme qui est intelligent, qu'Allah nous accorde cette intelligence. C'est cette intelligence, j'allais dire l'intelligence de foi, l'intelligence du cœur, qui fait qu'une personne sera capable de repousser n'importe quelle tentation, n'importe quel appel vers le mal. Je sors du dars, mais vous savez, on s'étale pour mieux comprendre et pour mieux avancer ensemble, inshallah. Moi, mon objectif, c'est le jour de Qiyama, parce que vous savez qu'on ne va jamais compléter les 30 juz. Je vais mourir au 25e, je pense. Juz, ou peut-être avant. Mon but, c'est que le jour de Qiyama, dans le Jannah, non, le jour de Qiyama, c'est stressant, ça. Mon but, c'est que dans le Jannah, on continue à être ensemble. Le vendredi, où les gens du Jannah se rendent visite, on s'assoit, on fait un petit dars. Je dis, bon, où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé au 22e. Mashallah. Toute une vie, on a pu faire jusque-là et on continue. Dites Amin, qu'Allah nous réunit dans le Jannah. Qu'est-ce qui fait que cette qualité est tellement importante? Ça te permet de garder la tête hors de l'eau, même dans les périodes de fitna les plus terribles. Mes chers frères, quel est le fitna le plus compliqué à gérer pour un homme? Dites-le clairement, soyez honnêtes. Fitnatun Nisa, il y en a un qui tient un peu en place. Fitnatun Nisa, ça c'est une réalité, ça a toujours été et ce sera toujours comme ça le jour de Qiyam. Si on voulait rentrer, vous me rappelez où est-ce que je m'éloigne, dans une comparaison de versets, il est mentionné, le verset ne me revient pas, mais si quelqu'un l'a, que le pied de Shaitan c'est faible. Mais par contre, dans Surat Yusuf, Inna kayda kunna azim. Ce que les femmes préparent leur plan, ça c'est costaud, le sens du verset. D'accord? Ce qu'on comprend, c'est que celui qui a cette conviction sur le Qiyama, l'au-delà, et qui réfléchit, c'est un homme qui aura toujours la protection d'Allah, et même face aux fitna les plus difficiles à gérer, comme fitna Tunisa. Il n'y a rien de plus complexe. Je prends l'exemple de mon ami Rachid, qui est célibataire. Salim, tu es marié ou célibataire? C'est l'axe du mal. Un jeune homme célibataire qui reçoit dans sa boutique, dans son magasin, une jeune fille. Quoique bon, il finit un peu raciste ces deux-là. Une jeune fille très belle, de haute lignée. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui appartient à une famille. Je voulais pas dire noble, mais c'est pas une femme de la rue. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a une certaine dignité et qui tombe sous le charme de ce jeune homme. Mais cette femme, elle est belle, elle a une certaine notoriété, mais elle n'a pas de piété. Elle n'a pas de piété. Elle ne pratique pas le dîn. Et son but, c'est de draguer pour... Draguer, c'est pas joli de dire ça. Hein, c'est de faire des avances... Je reprends. C'est de... Comment ? Séduire. C'est de séduire, de faire des avances pour le haram, pour le zina. J'allais dire pour pécho, mais ça, je n'ai pas le droit de le dire. D'accord ? Dans ce genre de situation... On voit si la réalité de la foi est présente ou non. Ça, c'est très compliqué à gérer. même, j'ai pris l'exemple d'un jeune qui n'est pas marié et tout, mais c'est également un homme qui est marié, qui a deux enfants, trois enfants. Hadith wala haraj. C'est une faiblesse qui existe dans le cœur de l'homme. Un penchant pour la femme, mais c'est une faiblesse qui existe également dans le cœur de la femme, penchant pour l'homme. C'est dans les deux sens. Et c'est pour ça que parmi toutes les propositions de péché, toute la panelle de péchés qui existe, le prophète alayhi salat wa salam a choisi un péché, ce péché-là, en mentionnant que le jour de Qiyama, parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, une personne, un homme qui reçoit les avances d'une femme qui est belle, qui a une certaine noblesse et qui refuse, il dit « Inni akhafullah ». Parce que ce qu'il a fait là, le refus du haram uniquement pour Allah, sans entrer dans les détails, les savants expliquent que ça aurait été un zina sans conséquence directe pour lui, c'est-à-dire de ce dunya. Ni sa femme ne saura, ni son entourage. Et j'aime prendre cet exemple, c'est ce jeune, c'est ce commerçant qui va faire, comment on appelle ça, il va à un salon en Thaïlande, je dis la Thaïlande parce que c'est un pays chelou, d'accord ? Il va en Thaïlande pour un salon et là-bas, il sait qu'il n'y a ni sa femme, ni sa belle famille, ni aucun prawala, ni aucun fundi, il n'y a rien. Personne ne le connaît. Et donc, s'il fait le péché, personne, c'est-à-dire aucune créature, ne le saura. Il n'y aura aucune conséquence. Et en plus, ça se passe dans sa chambre d'hôtel, tranquille et tout. La seule chose qui le permet de résister au haram, c'est « Inni akhafullah ». Je le dis de façon un petit peu simpliste, mais ça, c'est hyper puissant. Et là, on est au niveau du zina, mais à mon niveau, à moi, notre niveau, à nous tous, ça commence quand tu traverses la rue, qu'il y a une tentation et que ton nafs qui est ammaratun bissou, ton nafs qui te pousse vers le mal, c'est en nous, il t'attire vers le mal, mais ton iman est plus fort et tu crains Allah et tu baisses le regard. Donc, je reviens au verset. Yufuna bin Nadir, ça on explique. Wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira. Ibn Kathir rahimahullah dit, celui qui a cette qualité de son cœur, c'est quelqu'un qui le jour de Qiyama sera en toute quiétude et tranquillité. Et là, c'est une citation, c'est pas un hadith, dit que, je l'ai écrit, celui qui pense à l'au-delà en permanence, c'est vraiment lui qui est prêt pour l'au-delà. Celui qui pense au akhira tout le temps et qui a peur du qiyama, ben c'est quelqu'un qui réellement est prêt pour le qiyama. Alors que celui qui vit de le rafla de l'insouciance, Allah nous protège de l'insouciance. Vous savez, la piété, là, hein, mes chers frères, ça ne se rattache pas obligatoirement, mais je fais très attention à ce que je vais dire, hein, parce que pour pas qu'il y ait une double interprétation, mais il ne faut pas juste voir la personne selon son apparence et ses actions extérieures pour dire que lui c'est un muttaqi, lui c'est quelqu'un qui a réussi. Combien de personnes nous connaissons, et Allah me pardonne, je ne veux pas mettre en avant des actions et dire que c'était, ça c'est rien, c'est pas du tout le cas, des personnes qui, mashallah, ils sont habillés en kafni tout le temps, alors qu'il n'y a aucune obligation, mais ils sont en thawb tout le temps, le bonnet tout le temps, là aussi il n'y a aucune obligation, mashallah, la barbe, ça c'est sunnah, rien à dire, présent premier rang, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, qu'Allah m'accorde cette qualité, hafidhul Qur'an, il lit, il révise, mashallah, il y a une maîtrise, mais dans le travail, j'allais dire un gros mot qui commence par B, et qui est commun au créole mauricien, créole réunionnais, B, dans le travail, harami, comme on dit en arabe, quelqu'un de profondément malhonnête, c'est quelqu'un qui emploie des gens et qui ne règle pas. C'est quelqu'un qui s'engage avec quelqu'un pour, je ne sais pas, une franchise ou peu importe, et quand il faut mettre l'argent, bref, vous comprenez, c'est quelqu'un qui est un tchour, harami, je ne sais pas dans quelle langue, en malgache, comment il dit, un voleur. Et Allah musta'an, si on n'en connaît pas un, je vous le ramène. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Comment ces gens ont été trompés par Shaitan. Et ils sont persuadés par rapport à leur kafni, leur grande barbe, leur bonnet et couronne dans leur cœur et leur présence m'a dit, parce que quand ils disent, madame, il gère tout. Azat, il contrôle. Parce que son grand-père, toute sa famille était dans, mashallah, mashallah. Mais est-ce que selon toi, ça correspond à la qualité d'un muttaqi, hein? Que dans la masjid, tu es au top, mais dans le travail, tu es malhonnête? ou dans tes relations avec les gens. Donc, mes chers frères, la piété, c'est quelque chose qui commence de le cœur et qui rejaillit sur les membres. Je suis pas non plus de cette personne qui font ce discours que la piété, c'est dans, j'aime Allah dans mon cœur, Dieu est dans mon cœur, et je prie pas, du tout. Il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu et une présence de iman dans le cœur, comme on a dit, qui se manifeste dans nos a'mal. Voilà concernant les deux premières qualités qui ont été cités de la sourate Al-Insan pour Al-Abrar qui vont boire de ces boissons du Qiyam. On fait 15 minutes ce soir, la reprise, et on a 20 minutes. On va s'arrêter, Inch'Allah. Parce que si je démarre le deuxième point, il faut développer. Le deuxième point, je vous l'annonce. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Il y a tellement de leçons dedans que c'est un dars. Donc, je préfère faire les choses correctement. Je traduis. Et offre la nourriture malgré son amour pauvre à l'orphelin et aux prisonniers. On verra ça, Inch'Allah, vendredi prochain. C'est tout simplement quelqu'un qui a besoin de cette nourriture. C'est pas quelqu'un qui est dans l'opulence, qui est tellement riche, qui n'a besoin de rien. Non. C'est quelqu'un comme vous et moi, la classe moyenne. Les fins du mois sont difficiles. Parfois enfin, même la moitié du mois, hein, des fois. Et que, il n'y a pas beaucoup. Et que tu es attaché à ça parce que tu en as besoin pour toi et ta famille. Mais tu vois quelqu'un de miskin, tu donnes pour Allah. Et c'est très beau ce qu'Allama Sa'adi dit. Il dit que c'est des gens qui ont besoin de ces bienfaits, mais qui font passer l'amour d'Allah avant l'amour de leur propre personne. C'est puissant, c'est magnifique. Donc, c'est des gens qui vont donner alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le besoin. C'est des paroles qui ont l'air simples, mais pour avoir cette qualité-là, Allah, j'avais un professeur à l'époque, Allah Akbar, quand j'étais étudiant, m'a dit, un professeur nous disait, un cher, que quand tu veux donner à manger aux gens, c'est une bonne action, il dit que surtout ne sois pas cette personne qui, après le repas, quand tu as le ventre plein, que tu ne peux même plus bouger pour venir à namaz, quand tu as le ventre plein et que tes enfants, tout le monde a bien mangé, il reste quoi au fond de la marmite? Un peu le zoo, un peu, voilà, les morceaux que personne ne voulait. Il a dit, on va donner ça aux pauvres, fais une bonne action. Donc il dit aux enfants, mettez ça dans une barquette, il y a quelqu'un, voilà, on va lui donner. Ça c'est sadaqa ça? Allah est tayyib, il accepte que ce qui est bon. D'où le verset, Rachid, pas compliqué, 4e juz. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. On va atteindre la piété, il faut qu'on donne de ce qu'on aime. On ne donne pas les restants. Pas non plus manger à rester hier, il vient manger ça. Non, madame dit non, il ne mange plus ça. Ben donne galib. Quoi? Ça c'est sadaqa ça? La hawla wa la quwwata. Donc notre prof nous disait, tu veux donner à manger, sois sincère. Quand le repas est prêt et que tu découvres la marmite, avant de te servir et de servir à tes enfants, c'est là que tu prends un plat et tu donnes à quelqu'un qui en a besoin. Ça, c'est yut'imuna at'am. Qu'Allah nous accorde ces qualités. Je suis vraiment très attaché aux versets qu'on est en train de voir parce que c'est des versets qui touchent les a'mal al-qulub, des actions intérieures qui sont à la base de toutes nos bonnes œuvres. Qu'Allah nous permet de les étudier et surtout de s'en imprégner. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.